Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, la seule source de frissons sur le FM de Québec. Fréquence d'Outre-Tombe, David Rocketship et Patrick Anctil.
Oui, à Fréquence d'Outre-Tombe, on explique l'inexpliqué et on explore le couvre-feu. Donc, bonne première émission de Fréquence d'Outre-Tombe, spécial couvre-feu.
On vous accompagne pour l'apocalypse à venir.
Oui, parce que là, c'est comme ça que ça va marcher. Là, à 8h, vous allez être chez vous. Là, vous allez écouter la télévision. Puis rendu à 11h, vous allez être écœuré d'écouter la télévision. Fac, vous allez ouvrir votre radio et écouter Fréquence d'Outre-Tombe. Bienvenue!
Avec nos histoires effrayantes. Pat, t'as une histoire effrayante pour nous ce soir, hein?
Oui, effrayant, répugnant, je sais pas, mais écoute, ça va être une histoire d'enterrement de vie de garçon. Tu savais-tu, toi, qu'il y avait un club de danseuses à Saint-Malo?
À Saint-Malo?
Ouais.
Non, mais non.
Oui, je te dis, juste devant le cimetière, il y a un club de danseuses.
Ah, cool, j'ai hâte de voir ça.
On va découvrir ça ensemble.
Cool, j'ai hâte de voir ça, ton enterrement de vie de garçon.
Et de ton côté, David?
De mon côté, on a des loups-garous qui terrorisent la population ce soir pour Fréquence d'Outre-Tombe.
Yeah! Oh! Hey, c'est-tu le téléphone qui sonne, ça?
Oh oui, on a un appel, donne-moi une seconde, je prends la ligne. Oui, bonsoir, bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, à qui est-ce qu'on parle?
Bonsoir, je m'appelle Nathalie, j'étais la grande copine des fantômes à l'époque.
Bonsoir Nathalie, merci d'écouter l'émission. Vous nous appelez de quel endroit?
Eh bien, j'appelle de France, du Périgord exactement.
Oh wow, super.
Ouais.
C'est bon de savoir qu'on a des auditeurs en France.
Eh bien oui, on écoute aussi en France, hein, faut pas croire. On est cousins avec le Québec. Hein.
Ben oui, absolument. Ça fait plaisir de savoir ça. Donc, Nathalie, vous nous appelez. J'imagine que vous avez une histoire de fantôme à nous raconter.
Ah ben oui, c'est une belle histoire. Ben justement, dans le Périgord, hein, toujours, parce que c'était une maison... un manoir en fait, on avait quitté la région parisienne et on était arrivé dans cette maison en location avec mes parents quand j'étais jeune, j'avais 14-15 ans et donc on est arrivé donc à Brantôme qui est la Vénice du Périgord exactement, dans cette maison, dans cette grande maison ancienne. Donc l'ambiance était un petit peu la maison avec un grand escalier central en bois, donc juste pour mettre un petit peu l'ambiance, avec des pièces vraiment carrées, enfin c'était vraiment une maison, quand on arrive c'était immense, avec un grand grenier qui était extraordinaire quoi, voilà. Et donc c'était dans les années 80 même, oui, les années 80. Et en fait, on quittait la région parisienne. Ben, j'arrivais dans ce canton parce que le Brantôme, c'est une petite ville magnifique. Et donc, cette maison, on a commencé à y emménager. Et donc, tout se passait bien. Je me sentais très bien dans cette petite maison bourgeoise, entre autres. Et puis, un soir, mes parents étaient partis à Limoges. Et donc, je me retrouvais toute seule dans cette grande maison. Mais je n'avais pas peur. Hein. J'étais pas... Mais bon, il y avait des choses troublantes qui se passaient. Mais... on entendait marcher à l'étage alors que nous, on était au rez-de-chaussée. Mais ça, bon, voilà, ça faisait des drôles de bruit, mais bon, on s'en passe. Et puis là, je ne vous laisse pas parler, du coup, hein, je raconte mon histoire,
oui,
hein,
oui,
je suis dedans.
Bon, c'est
hein.
Bon, je vous laisse aller, c'est ce qui nous intéresse.
Et puis, donc, un soir, mes parents donc, sont partis, donc j'avais ma petite chienne à l'époque et un chartreux avec moi, et j'étais couchée avec moi dans le lit, donc moi, je bouquinais, et là, j'ai ma petite chienne qui commençait à grogner. Sans savoir pourquoi, enfin, donc je me dis qu'il y avait personne, enfin bref, je l'ai rassuré. Et là, j'ai mon chat qui s'est assis dans le lit et qui a fait donc le chartreux. On imagine la tête du chat gris. Déjà, il avait des grands yeux jaunes. Et là, mon chat, il avait des yeux écarquillés et en fait, il regardait un point. Enfin, il regardait quelque chose. Il suivait du regard quelque chose. Bon, sur le coup, je me suis dit, le chien qui aboie, le chat qui regarde étrangement, alors je mettais ma main sur la tête du chat pour lui dire, bon, arrête, enfin bref. Et le chat, il continuait, il commençait à grogner aussi. Bon, c'était quand même assez troublant. Mon frère était parti, donc à l'époque, mon frère était aussi était présent, mais était parti en Angleterre, donc j'étais vraiment toute seule. Et la chambre de mon frère donnait juste derrière ma chambre, il y avait juste une porte de séparation. Et puis là, en fait, j'ai la lumière de la chambre de mon frère qui s'allume.
Oups.
Donc, je vois sous la porte la lumière. Donc, je me lève. Il peut y avoir un faux contact dans une maison. Ça peut arriver aussi. Hein. Je me lève, je vais dans la chambre de mon frère. Effectivement, la lumière était allumée. Donc, j'ai éteint la lumière. Je me suis recouchée. Et là, mon chat recommence le même truc, grogner, puis regarder vraiment quelque chose d'invisible. Et là, je me recouche et la lumière se rallume une nouvelle fois.
Oh.
Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, c'est quand même bon, faux contact. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le vieux fusible, parce qu'il y avait des fusibles, donc je pouvais retirer le fusible. Donc, j'ai éteint la lumière et j'ai retiré le fusible. Et puis là, donc en fait, eh ben, je me suis recouchée, mais bon, j'étais quand même un petit peu impressionnée par... Et là, en fait, ma porte de chambre, bon, j'avais un autre accès de ma porte de chambre, et là, dans la porte, il y a eu un grand boom, quoi, en fait, comme si quelqu'un était derrière, mais un grand boom. Donc, je me suis levée en disant, il y a un cambrioleur. Là, c'est une blague. Il y a quelqu'un dans la maison. Donc, je me suis levée, j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien du tout. Et là, mon chat continuait à grogner, mais là, il devenait de plus en plus agressif. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était vraiment bizarre. Et là, j'ai ma porte de placard, j'avais une espèce de petite porte de placard incluse dans les murs, qui s'est ouverte toute seule. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire, là, c'est pas moi qui... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et là, donc, rebelote, un grand coup dans la porte. Et là, en fait, je me suis dit, je bouge plus de mon lit, quoi, pourvu que mes parents arrivent très vite, parce que là, je vais pas. Et c'était assez troublant parce qu'il y avait vraiment des bruits de pas derrière la porte.
Aïe, aïe, aïe.
Et il n'y avait rien du tout. Et en fait, cette maison, quand j'y habitais les premiers mois, j'avais fait un cauchemar. J'avais rêvé que c'était une maison où il y avait une autre maison à l'intérieur et que la maison avait brûlé. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette maison avait brûlé, donc j'avais pas, mon cauchemar avait vraiment été vrai. Et en fait, oui, c'était... mes parents sont arrivés, donc je leur ai raconté ce qui s'était passé, parce que c'était quand même... je me suis dit, il y a une blague, il y a quelque chose, quoi. Donc, c'était vraiment terrifiant quelque part, quoi.
Avec raison. Ah, ben c'est un très bon témoignage, Nathalie. Je vous remercie beaucoup de l'avoir partagé.
Un témoignage, c'était surtout que cette maison l'avait dû vécu, parce que, ah oui, puis c'est ça, j'ai oublié de raconter, parce qu'en fait, mes parents, quand on est arrivés dans cette maison, il y avait les anciens meubles, il y avait une chambre de jeune fille, et moi, à l'époque, j'étais très hippie, moi, c'était des cages au pain, c'était un matelas par terre, et c'était ma vie, c'était comme ça, quoi. Et quand on est arrivés dans cette maison, il y avait une très belle chambre, justement, où était la chambre de mon frère, et il y avait une très belle chambre avec un lit ciselé, enfin, c'était très beau, et moi, non, je voulais pas de cette chambre, et puis j'avais un mauvais ressenti, avec quelque chose qui me disait non, je ne veux pas de cette chambre. Et puis en fait, le temps ballant après, vous savez, les gens discutent beaucoup, etc., etc. Et on a appris en fait que cette maison, déjà à l'époque, avait été, il y avait eu des choses parce qu'il y avait une jeune fille en fait qui était tombée malade dans cette maison, qui est décédée d'une leucémie, oh. Et dans cette chambre.
Oh, oh.
Voilà. Donc c'était ça a été je me suis dit voilà, c'était un appel, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis c'était assez troublant, quoi.
Ouais, effectivement. Vous y avez habité longtemps dans cette maison ou?
Eh bien, on est resté 10 ans dans cette maison, 10 ans, oui, 10 ans, ouais, à peu près, voilà.
Oh, wow.
Et en fait, cette maison, maintenant, elle existe toujours, même quand je passe souvent et, et je vois beaucoup de choses qui, bon, ça a changé parce qu'avant, ça faisait vraiment fantomatique, quoi. Mais on avait des choses troublantes parce que même mes parents, un soir, étaient dans le salon. Mon père, qui était tout à fait cartésien, ils regardaient la télé et ils ont vu comme un voile blanc passer au-dessus. Et mon père, qui était très cartésien, dit à ma mère, tu as vu ce que j'ai vu? Et ma mère lui dit, oui. Mais quand je te disais qu'il y avait une présence de fantômes dans cette maison, c'est vrai. Mais on a eu du mal à y croire pendant longtemps, quoi. Mais c'est des choses réelles. Voilà.
Ah,
mais
wow.
J'ai plein d'histoires. Dans
c'est
le futur, j'ai plein d'autres histoires.
Super.
De fantômes qui étaient extraordinaires. Mais c'est
super.
Surtout que les chats, ils sentent beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'une maison... Il y a des choses extraordinaires. Mais je vous raconterai une autre histoire une autre fois.
Super.
Mais celle-là, déjà, c'était pas mal parce que cette maison était bien hantée. Elle existe toujours.
Cool, c'est bon à savoir. Ben, merci beaucoup. Puis oui, effectivement, on se reparle dans le futur pour d'autres histoires.
Ah, mais je vous raconterai une autre histoire aussi parce que des maisons, j'en ai fréquenté. Et finalement, il y a beaucoup de maisons où il y a des âmes qui traînent, c'est clair.
Ah ouais,
Je
cool.
rigole, j'en rigole aujourd'hui, hein, mais je vous avoue qu'à l'époque, quand même, j'ai eu beaucoup peur.
Ouais, je suis certain, j'en suis convaincu. On a des frissons juste à entendre votre histoire.
Bonne continuation.
Super, merci beaucoup d'avoir appelé, c'est
Vive les
apprécié.
auditeurs québécois. Je vous embrasse tous là-bas.
Super, on fait pareil, merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Ciao. On remercie donc Nathalie qui nous a appelé de France pour nous raconter son histoire de visiteur.
Cette incroyable fréquence d'outre-tombe traverse l'océan et se rend jusqu'en Europe.
Oh oui! Et dans les histoires effrayantes qui se passent tout près d'ici, Pat, on en a une, hein, qui s'en vient?
Oui, on en a une qui s'en vient. Donc, cette histoire s'intitule L'histoire de l'enterrement de vie de garçon. Depuis un certain temps, les habitants du quartier Saint-Malo à Québec se plaignaient d'odeurs dans le quartier. En effet, il y avait comme une puanteur constante dans le quartier, une odeur de charogne, qui avait commencé plus subtilement et sporadiquement, mais qui, depuis un moment, s'empirait. L'odeur semblait provenir des égouts et stagnait dans les airs du boulevard Saint-Sacrement jusqu'à la rue Marie-de-l'Incarnation. Les citoyens étaient nombreux à se plaindre à la ville. Tous les jours, les bureaux de la ville étaient débordés d'appels, mais les employés ne comprenaient pas. La ville n'avait pas procédé d'aucune manière à quelques travaux ou projets que ce soit concernant les égouts. Un matin, plusieurs personnes tombèrent malades en même temps dans le quartier. Les ambulances s'en venaient par dizaines récupérer les malades pour aller les porter en haut de la côte où se situe l'hôpital Saint-Sacrement. La police se dépêcha sur les lieux, ainsi que les médias locaux. Encore là, aucune explication sur les odeurs. Ce qui était le plus étrange, c'est que l'odeur était très circonscrite et stagnante dans les airs. Dépassé les limites du quartier Saint-Malo, les odeurs se perdaient complètement. Un jour, alors que les odeurs étaient à leur paroxysme de répugnance, une fumée rouge fluorescente se fit apercevoir émanante par les bouches d'égouts. Une fumée qui ressemblait à celle provoquée par les bougies de l'armée lorsque les militaires veulent créer un brouillard opaque pour se dissimuler. Le quartier Saint-Malo se retrouva donc envahi d'un smog rougeâtre. Le temps passait et les citoyens du quartier perdaient de plus en plus patience. Ils avaient l'impression que les employés de la ville se pognaient le beigne dans le dossier, que rien n'avançait, voire qu'on leur cachait des choses. Une nuit, un comité de voisins qui s'était rapidement improvisé décida de passer à l'action. Ils avaient spoté que certaines bouches d'égout avaient été vite reposées et étaient faciles à enlever. Accompagnés de masques à gaz, d'outils, de lampes de poche frontales et de vêtements de pluie, ils décidèrent de pénétrer dans les égouts du quartier pour assouvir leur curiosité. C'est donc à 2 h du matin, un lundi soir, au coin des rues Beauharnois et Saint-Vallier, que la bande de voisins descendirent dans les égouts. Après 1 heure de marche dans ce labyrinthe putride et obscur, ce qu'ils découvrirent les confondut au plus haut point. Les couloirs du labyrinthe des égouts conduisaient vers une immense pièce dans laquelle se trouvait au milieu un stage. La salle ressemblait à un bar clandestin, un bar de danseuses à vrai dire. Mais des danseuses mortes vivantes. En effet, des dizaines de morts vivants à la peau déchirée et pleine de sang étaient sur le party ben raide. Bocs de bière à la main, cigarettes dans l'autre, tous rassemblés à contempler sur la scène des danseuses au visage arraché. Les danseuses n'avaient pas de vêtements et en plus, elles s'arrachaient la peau devant leurs spectateurs. Plus les morceaux de peau tombaient sur le plancher de la scène, plus les morts vivants s'exaltaient et applaudissaient. Ce qui était le plus surprenant, c'est que le groupe de voisins maintenant horrifiés réalisa enfin le pourquoi de toutes ces odeurs, mais surtout de la fumée rouge. Lorsque les danseuses mortes s'écartaient les jambes, une épaisse fumée rouge s'extirpait de leur orifice et envahissait tout le lieu ainsi que tous les corridors des égouts pour sortir par les bouches d'aération. Une des danseuses remarqua le groupe d'individus au loin qui essayait de se faire discret. Elle lâcha un grand cri strident. Les morts-vivants se retournèrent aussitôt et agrippèrent le groupe de voisins de toutes leurs forces et les amena sur le stage. La plus hideuse et monstrueuse des danseuses s'approcha du groupe et se retourna vers la salle en prenant la parole. Elle dit « Maintenant, c'est l'heure de l'enterrement de vie de garçon !» On ne retrouva jamais le groupe de citoyens qui étaient descendus dans les égouts ce soir-là. Et parfois, encore aujourd'hui, on raconte que si vous apercevez une fumée rouge accompagnée d'une odeur écœurante sortant des bouches d'égouts du quartier Saint-Malo, c'est qu'il y a quelque part dans les alentours un enterrement de vie de garçon. Fait que toi, David, as-tu déjà participé à un enterrement de vie de garçon?
Ben, j'ai déjà participé à un enterrement de vie de garçon, mais il était moins putride.
Ouais, c'est ça, hein, celui-là, il te donne peut-être pas autant le goût.
Cool histoire, ça, Pat.
Merci, merci. Donc, on enchaîne avec une histoire. À quelle saveur, dis-je?
Une histoire de loup-garou. Ahou!
Ahou!
Donc, cette histoire s'appelle « Le loup-garou de Limoilou ». Au début de janvier 1931, il faisait particulièrement froid à Québec. En cette période de crise économique, la dizaine de milliers d'habitants de Limoilou n'avaient pas d'autre choix que de se tenir les coudes serrés pour que chacun ait une bouchée de pain à mettre dans son assiette. Les usines roulant au ralenti et les activités du port de Québec étant impactées, la plupart des travailleurs du coin étaient au chômage forcé et les quelques-uns qui avaient encore un emploi devaient veiller sur leurs amis et leurs voisins afin de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. C'était le cas d'Adrien Rouleau, instituteur à l'école Saint-Jean, dans le cœur de Limoilou. En tant qu'instituteur, il était plutôt épargné par la crise économique. Son salaire était déjà presque le double de celui d'un travailleur moyen, et surtout, il avait encore un emploi, lui. Ayant toujours été très généreux de nature, il lui semblait donc normal de s'impliquer du mieux qu'il pouvait auprès de sa communauté. Comme il côtoyait les enfants quotidiennement, à l'école, il avait appris à bien les connaître. Il savait lesquels s'en tiraient bien malgré les circonstances et quelles familles en arrachaient un peu plus. À l'occasion, il laissait discrètement une miche de pain ou quelques légumes dans le sac de cuir fané et usé d'un de ses élèves. Partage ça avec ta famille et remercie le bon Dieu d'avoir donné la bonté et la solidarité à ses fidèles, qui se contentait de répondre quand l'enfant l'interrogeait. Les parents de ses élèves l'invitaient souvent à manger ou à prendre le thé aussi. Et, inévitablement, dès qu'il mettait les pieds dans une des chaumières du quartier, il décelait tout de suite, discrètement, ce dont la famille avait besoin, et s'arrangeait pour le leur procurer subtilement. Il y avait un don pour remarquer les cordes de bois un peu trop maigres pour finir l'hiver, ou bien les vêtements rapiécés tellement souvent qu'ils tenaient maintenant plutôt de la courte pointe. Non pas qu'il était lui-même très riche, mais il se contentait d'un modeste confort et aidait son prochain avec ce qui lui restait. Par le glacial dimanche après-midi du 4 janvier 1931, il faisait du bénévolat au sous-sol de l'église Saint-Jean, toujours dans le cœur de Limoilou. Comme dans presque toutes les paroisses de la ville, l'armée canadienne avait fait don de manteaux et de vêtements usagés afin de soutenir les chômeurs qui n'auront peut-être pas de quoi se chauffer ni même d'endroit où se loger dans les prochains mois, qui s'annonçaient encore durs. Quelques dizaines de nécessiteux attendaient patiemment devant la porte de côté. Ils faisaient sagement la file le long de l'église, tout en placotant, en discutant de choses et d'autres. Le bonhomme Gauthier répétait ce qu'il avait entendu à la radio ce matin-là. « C'est de la faute aux communistes, crise-là. Oui, 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 c'est l'archevêque qui disait ça tantôt. » Adrien, lui, servait chacun des demandeurs à tour de rôle avec sourire, bonté, compassion. « Bonjour, Monsieur Grancher, comment va Guylaine? Vous avez besoin de quoi, là? Un manteau? Bon, quelle grandeur? Ok, voilà. Allez, bonne fin de journée, là. Ah, puis dites salut à Lucien de ma part. Dieu vous bénisse. » La journée avançait et arriva une femme qu'Adrien n'avait jamais vue auparavant dans le quartier. Elle était vieille, se déplaçait lentement, en boitant légèrement. Elle s'avança vers lui, tout en remplaçant le châle qui lui couvrait les cheveux et les épaules. Elle dégageait quelque chose de mystérieux et s'approchait avec une forte assurance dans le regard. Une assurance qui déstabilisa même Adrien, alors qu'elle finit par s'adresser à lui d'une voix rauque et grinçante, mais étrangement puissante. « Oui, c'est vous. Je savais que c'était vous. » Pris de court, l'instituteur balbutia. Est-ce que je vous connais? Vous êtes madame... Puis, sans lui répondre et d'un geste étrangement rapide pour une vieille de son âge, elle lui griffa le dessus de la main qui laissa perler une fine couche de sang pâle. Puis elle le regarda droit dans les yeux, ce qui l'ensorcela presque, et lui lança, toujours une voix éraillée, « C'est vous le prochain! » Sous le choc, Adrien fut trop ébahi pour réagir, alors que la vieille fit demi-tour et disparut en tournant le coin. Adrien était toujours dans la lune quand M. Lemelin arriva près de sa table. « J'en voudrais un manteau, moi et tout. Oui, quelle grandeur! » Ce soir-là, la pleine lune brillait haut et fort sur Limoilou. Éclairé par une bougie posée sur sa table de chevet, Adrien lisait un livre en tentant de trouver le sommeil. Depuis que la nuit était tombée, il se sentait étrangement excité. Son cœur battait fort et vite. Il avait des bouffées de chaleur. Il tentait de se calmer en lisant, mais rien n'y faisait. Il était presque minuit quand il se mit à ressentir d'énormes spasmes au niveau de son abdomen. Il se leva de son lit et tomba à genoux sur le plancher de sa chambre. Il fixa ses mains, maintenant posées sur le plancher de bois, et remarqua qu'elles étaient tout à coup étonnamment poilues. Il pouvait même voir une fourrure y apparaître à vue d'œil, alors que ses doigts se mirent à s'allonger sous ses yeux, faisant craquer ses os dans une forte douleur. Ses ongles furent chassés par de monstrueuses griffes qui percèrent sa peau et laissèrent filer comme 10 ruisseaux ensanglantés derrière elle. Les spasmes reprirent. Il sentait maintenant sa cage thoracique exploser en 1000 éclats dans une secousse de douleur et d'effroi. Tout son corps avait maintenant pris le double, le triple de son volume et ses vêtements n'étaient plus que des lambeaux. C'est à partir de ce moment-là qu'Adrien Rouleau ne put se rappeler de quoi que ce soit. Mais la créature immense et sanguinaire qu'il était devenu se lança par la fenêtre la plus proche dans un élan sauvage et primitif et allait parcourir les rues Limoilou à la recherche de chair fraîche à se mettre sous la dent. Le lendemain matin, Adrien se réveilla sur le plancher de sa demeure, sur le pas de sa porte, grande ouverte. Il avait un énorme mal de tête. Tout son corps élançait, il faisait souffrir au plus haut point. Il avait le visage et les mains pleins de sang. Mais que s'était-il donc passé par cette nuit de pleine lune? Dès ce jour-là, le crieur local avisa la population de Limoilou que 5 malheureux avaient été retrouvés morts dans le courant de la nuit. Des travailleurs du port pour la plupart qui revenaient de travailler aux petites heures du matin. On avait retrouvé leur corps en lambeaux, déchiquetés à un tel point qu'on avait eu la difficulté, au départ, à même comprendre à combien de cadavres on avait affaire. Mais le plus mystérieux dans l'histoire, c'est qu'en plus de ces 5 morts, 2 personnes avaient été grièvement blessées, avec de larges traces de morsures partout sur le corps, mais s'en étaient miraculeusement sorties. Lorsqu'on leur demanda ce qui s'était passé, les 2 victimes racontèrent une histoire semblable. Ils avaient été attaqués par une énorme bête, comme un loup gigantesque, aussi gros qu'un ours. Ils s'étaient débattus du mieux qu'ils le pouvaient pour finalement courir à l'abri. On n'attrapa jamais la bête. Et il se passa plusieurs années sans qu'un événement semblable arrive à nouveau. Le pauvre Adrien, lui, resta dans le doute pendant 30 ans, se demandant s'il était lui-même la bête immonde qui avait terrorisé le quartier cette nuit-là. En janvier 1961, 30 ans plus tard, on recensa 3 attaques du genre lors de la nuit de la première pleine lune de l'année. On avait retrouvé cette fois-ci 10 morts et 3 blessés à Limoilou, toujours autour du domicile d'Adrien, qui, encore une fois, se réveilla nu et ensanglanté au petit matin. Cette fois-ci, convaincu qu'il était l'auteur du massacre, il mit fin à sa vie en se pendant dans le clocher de l'église Saint-Jean, qui lui avait été si cher toute sa vie. Cette fois, par contre, des événements semblables avaient eu lieu en 2 autres endroits de la ville de Québec. On avait retrouvé 3 corps en morceaux dans Sainte-Foy et 8 à Sainte-Anne-de-Beaupré. En tout, il y avait eu 7 blessés et quelques témoins qui, tous, dirent avoir vu une énorme bête sanguinaire et impardonnable. Encore une fois, il se passa plusieurs années sans qu'on ne soit témoin d'un phénomène semblable. C'est en janvier 1991, encore une fois, 30 ans plus tard, lors de la première nuit de pleine lune de l'année, que des massacres eurent lieu aux 4 coins de la province cette fois-ci. Les rapports avaient été discrètement traités par les autorités qui ne voulaient pas créer de panique auprès de la population. Le pire de la tragédie eut, encore une fois, lieu dans le cœur de Limoilou. On avait éventuellement érigé une statue au coin de la 3e avenue et du boulevard de la Canardière afin de ne pas oublier de craindre le loup de Limoilou. Nous voilà donc aujourd'hui, en janvier 2021, et exactement 30 ans après la dernière attaque. Le gouvernement en place, sous la recommandation des services secrets canadiens et de la sécurité publique, a su profiter du couvert d'une pandémie mondiale pour instaurer un couvre-feu dans les semaines autour de la première pleine lune de l'année. Mais si vous êtes un travailleur de nuit ou si vous décidez de braver le couvre-feu, soyez avertis! Regardez souvent derrière vous et soyez attentifs à vos alentours, puisqu'avec une soif de sang inépuisable, des crocs acérés et des griffes impardonnables, rôdera le loup-garou de Limoilou.
Ouais, ça serait pratique un loup-garou dehors ces temps-ci, hein? On a le droit à un chien, mais un loup-garou, on a-tu le droit, David?
Tu as le droit de prendre une marche dehors si tu tiens ton loup-garou en laisse.
Yeah! Hey, formidable! Belle histoire! Merci d'avoir écouté Fréquence d'Outre-Tombe!
L'émission qui t'accompagne dans l'apocalypse à venir.
Bonne soirée!
À la semaine prochaine!